Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique. Regard sur l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fête cette année ses 70 ans. Elle est la plus vieille alliance militaire du monde et continue de grandir. Bientôt 30 membres avec l'accession de la Macédoine du Nord prévue à l'automne. Pour une population de 930 millions de personnes, près de la moitié du produit intérieur brut mondial et 55% des dépenses militaires planétaires. Si elle semble toujours forte, l'alliance n'en est pas moins secouée et démunie. Les conditions de la relation transatlantique ont changé. L'Alliance doit faire face à l'absence de leadership fort des États-Unis pour la première fois de son histoire et à la montée en puissance de la Chine. État des lieux et regard sur les défis avec nos invités. Le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié transformation au sein de l'OTAN. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Lascongiarias, historien militaire affilié à l'Institut de recherche sur les environnement complexe, ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Moulny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Une alliance secouée ou en plein désarroi, voilà ce que l'on entend à propos de l'OTAN en cette année 2019. Il est vrai qu'entre un président américain qui met sous une forte pression les alliés pour qu'ils prennent une part plus grande aux dépenses militaires de l'organisation et y consacrent au moins 2% de leur produit intérieur brut, et la remise en cause par certains des valeurs démocratiques qu'elle défend, on pense à la Hongrie, la Pologne ou encore la Turquie. La Turquie qui par ailleurs est en délicatesse avec Washington pour s'être laissé séduire par le système de missiles antimissiles russe S-400. L'OTAN, une alliance de 29 pays dont la cohésion a du mal à se faire dans un monde qui change et s'accélère. L'OTAN se fragilise-t-elle, voire est-elle obsolète, général Paloméros?
Si vous voulez, l'OTAN vit dans l'environnement géopolitique et géostratégique moderne, c'est-à-dire un environnement qui est fragile, qui est évolutif, qui est dangereux sous certains aspects, mais l'OTAN résiste. Donc, c'est une des rares institutions aujourd'hui qui, malgré tout, permet à 29 pays, maintenant bientôt 30, de dialoguer sur des questions extrêmement importantes de paix, de sécurité et des questions stratégiques. Donc, c'est une alliance qui s'est adaptée. Certains prédisaient la fin à l'issue de la guerre froide, disant, bon, l'OTAN finalement a rempli sa mission, maintenant il faut passer à autre chose, sauf qu'on n'a pas trouvé de solution d'emplacement. On n'a pas trouvé de solution d'emplacement parce que le monde a continué à évoluer et on a eu besoin de cette instance politico-militaire. L'OTAN, c'est ça sa caractéristique, si vous voulez. Il ne faut pas lui demander tout, il ne faut pas la mettre à toutes les sauces, si je puis m'exprimer ainsi. Mais cette instance, elle est dédiée à ça. Et je crois que c'est le risque, c'est un petit peu là. C'est de se dire, puisqu'elle existe, on va lui faire tout, et ça ne serait pas une bonne chose. Il faut qu'elle continue à s'en centrer, à mon avis, sur ses affaires militaires essentiellement, c'est-à-dire de sécurité, bien sûr, avec une forte dimension politique, ce qui laisse une large place, et on va y revenir par la suite, à des partenariats, et en particulier avec ses 22 membres aujourd'hui, puisque la Grande-Bretagne n'est pas encore sortie de l'Union européenne, si elle sort, ces 22 membres européens qui constituent quand même un pilier relativement solide. Donc, on voit que l'avenir, c'est ça, c'est l'intégration, mais c'est aussi la coopération structurée, la coopération constructive. C'est-à-dire comment on peut faire face à l'ensemble des menaces, et on va en reparler, qui sont vraiment diverses, variées, de toute nature, ensemble. Donc, à tout prendre, je crois qu'on se porte mieux d'avoir une alliance atlantique qui est certes soumise à des tremblements et à des discussions que de ne pas l'avoir aujourd'hui.
Guillaume Lascongiarias.
Alors, je souscris tout à fait à ce que dit le général Paloméros. Je préférais en fait voir deux choses, c'est-à-dire que l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire le traité qui fonde l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire cette espèce de structure d'où vient le terme d'allié, est effectivement mise en, non pas en danger, mais est interrogée par la posture notamment américaine, par l'absence de leadership et par la volonté d'ailleurs d'absence de leadership américain. Mais c'est pas une nouveauté, c'était quelque chose qu'on avait déjà observé avec Obama, donc c'est quelque chose qui vient de relativement loin. Du moins, c'est pas Trump qui a véritablement tout changé. Et si cette alliance paraît un petit peu fragilisée, je dirais pas fragile, mais fragilisée, en revanche, l'organisation, c'est-à-dire la structure qui, elle, travaille au profit des alliés, qui est installée donc effectivement à Bruxelles, eh bien l'OTAN, elle, ne va pas si mal. Au contraire, je suis assez d'accord, elle évolue et elle s'adapte, et elle est même capable aujourd'hui de proposer des initiatives, des réactions, des plans, des systèmes, ou du moins des solutions qui satisfont les alliés. Donc en gros, il faut bien peut-être distinguer la relation transatlantique, qui est effectivement un petit peu mise à mal, de la façon dont l'OTAN fonctionne, travaille et permet en fait de créer de ce qu'on appelle de l'interopérabilité, qui est en fait la très grande plus-value de l'OTAN.
Alors Jean-Pierre Mauly, je vous passe la parole, mais finalement, le général Palomaros l'évoquait, 22 membres européens, je le disais en introduction, 29 membres au total, dont un 30e à l'automne prochain avec l'accession de la Macédoine du Nord au sein de l'OTAN. Cet accroissement numéraire des membres de l'OTAN, c'est aussi une façon, une manière de fragiliser une organisation comme celle-là.
Ben, ça la fragilise et ça la renforce en même temps, c'est ça le paradoxe. Parce que, comme ça vient d'être très bien dit, je pense que l'OTAN en tant que telle, en tant que structure, se porte pas si mal que ça. Et j'ai envie de dire qu'elle se nourrit d'une certaine manière, d'un certain nombre de menaces grandissantes ou nouvelles. On peut parler de résurgence de menaces russes, menaces cyber, menaces hybrides, etc., etc., qui font que l'OTAN, finalement, se porte bien à ce niveau-là. Le problème, c'est que d'une part, il y a une vraie question qui est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on partage les mêmes intérêts de sécurité que les Américains ? Et on l'a vu sur la question iranienne, on le verra, à mon avis, dans les semaines qui viennent sur la question proche-orientale. Et puis, la question de l'élargissement pose un double problème, et c'est là qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, ça se renforce, mais en même temps, est-ce que ça dilue pas d'une certaine manière la garantie de sécurité, qui est le cœur de l'Alliance Atlantique, qui est l'article 5? Et en même temps, s'il y a un autre problème derrière, est-ce que ça crée pas, comment dire, une division du monde entre ceux qui sont membres de l'OTAN et ceux qui ne sont pas membres de l'OTAN? Et ceux qui ne sont pas membres de l'OTAN ne peuvent pas considérer eux-mêmes l'OTAN comme une menace? Et tout ça, le problème, c'est que c'est pas véritablement mis sur la table. C'est des questions qui ne sont pas posées aujourd'hui, et je pense que le véritable problème, il est là. Il n'est pas dans l'OTAN en tant que tel, mais il est sur l'absence de réflexion sur ce que doit être l'OTAN dans les années qui viennent. Après, c'est un fantastique outil, effectivement, en termes d'interopérabilité, et un fantastique outil pour monter des opérations, ça c'est certain.
Alors, Général Palomaros, vous partagez ce que vient de dire Jean-Pierre Mauly, absence de réflexion sur ce que doit être l'OTAN. Vous qui avez été à l'intérieur même de l'OTAN, on suppose qu'il y a des militaires qui réfléchissent beaucoup, et il n'y a pas forcément de porosité ou de perméabilité entre la réflexion intérieure, interne à l'OTAN et ce qui peut se savoir à l'extérieur, ou je me trompe?
Alors, d'abord, si on se place au plan national, je pense que l'OTAN, l'Alliance Atlantique et l'OTAN, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on distingue bien les deux, et c'est même fondamental, est assez méconnu en France en particulier. Et ce point est important parce que la France, elle se retrouve dans une situation clé, à la fois au sein de l'OTAN, où elle est un contributeur apprécié. C'est pas par hasard que lorsque le président Sarkozy a décidé de rejoindre la structure militaire, on pourra y revenir si vous le souhaitez, la France a obtenu un poste de commandement suprême que j'ai eu l'honneur d'occuper, effectivement. J'étais le second et on en est au quatrième, maintenant au quatrième général français. Et c'est parce qu'elle est reconnue. Elle est reconnue par ses capacités, elle est reconnue par son aptitude à participer aux opérations, elle est reconnue par son investissement dans la défense. La France est le chantre également d'une certaine Europe de la défense, et les Britanniques sont quand même sur la voie de sortie, qu'on le veuille ou non, de cette défense européenne. La France, puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité, se trouve, elle, à la poignée de l'éventail, comme on aime le dire dans notre jargon, et elle a cette double responsabilité de peser sur l'Alliance pour bien faire prendre conscience des enjeux à la fois politiques, stratégiques et européens, et de l'autre côté, faire en sorte que cette alliance, elle continue à fonctionner. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, investit dans les forces de réaction de l'OTAN. Elle investit, elle assure son tour dans la protection aérienne des États baltes. Elle est présente, évidemment, dans le commandement de l'OTAN. Elle pèse au plan diplomatique, au plan militaire. Donc, oui, on a un petit peu cette question. On est vraiment à la croisée des chemins. Et on sent que la France, finalement, elle soutient l'OTAN sans vraiment en faire beaucoup de publicité. On n'a pas l'OTAN honteux, ça serait un terme peut-être un peu galvaudé, mais on a l'impression qu'on est un petit peu gêné par cette appartenance. Je crois que, comme disait Jean-Pierre ou Guillaume, on aurait intérêt à peut-être à lancer vraiment, et je le souhaite vraiment, ce débat pour montrer ce qu'est l'Alliance Atlantique aujourd'hui, que nos citoyens comprennent bien son bénéfice, mais aussi les enjeux qu'il y a derrière. Et il faut revenir sur le rôle des Américains au sein de l'Alliance. C'est un sujet extrêmement intéressant qui est souvent simplifié à outrance, ce qui n'amène à rien.
Alors justement, il y a beaucoup de choses, mais on va commencer un petit peu à égrener. D'abord, les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, elles ne sont pas bonnes, c'est un euphémisme. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la façon dont aujourd'hui les Américains voient l'OTAN, un fardeau, un outil? Est-ce qu'ils sont à 100% de l'OTAN? On a entendu, ça n'a pas été dit directement par le président américain, mais cette éventualité pour les États-Unis de quitter l'OTAN, est-ce que c'est imaginable, Guillaume Lascangérias?
Je pense qu'il y a trois choses. La toute première, elle est de regarder les faits et de pas forcément s'arrêter aux tweets. C'est vrai que si on regarde les postures de Trump, on pourrait véritablement s'interroger. C'est quelqu'un qui, avant même d'être élu, au cours de la campagne présidentielle de 2016, dit que l'OTAN est obsolète. Alors forcément, ça crée un peu d'angoisse, un petit peu de frisson. Mais dès le début, en fait, finalement, l'OTAN est moins obsolète. Il reçoit notamment, à l'époque, déjà, Jens Stoltenberg, le secrétaire général. Puis ensuite, on a l'enchaînement des sommets à Bruxelles, d'abord, puis le tout dernier. Et dans les deux cas, on a cette angoisse. Est-ce que le président américain va se déclarer en faveur de l'article 5, ce fameux traité de défense collective? Il le fait pas, mais à l'époque, James Mattis, qui est le secrétaire d'État à la Défense, et Mike Pence, donc le vice-président, disent, en fait, il ne le dit pas, mais il fait pas moins. Et c'est vrai. Dans les faits, les Américains ne dépensent pas moins, ne s'investissent pas moins. Et au contraire, quand on regarde bien la cotisation qu'ils apportent, notamment dans ce qu'on appelle l'initiative de réassurance européenne, ils payent même encore plus que sous Obama. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, effectivement, ce qui caractérise aujourd'hui l'art du deal, selon Trump, c'est il faut que les Européens payent plus pour leur défense. Mais là encore, Trump ne fait jamais que dire de manière beaucoup plus brutale ce que Robert Gates avait dit aux Européens en 2011 pendant la campagne de Libye en disant, écoutez, si vous faites pas, je caricature, mais si vous faites pas plus et si vous faites pas plus vite, un moment ou un autre, le contribuable américain, il en aura marre, il va demander à ce que l'on se retire. Alors, est-ce que, troisième point, est-ce que c'est possible? Alors, en théorie, oui. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le Congrès et la Chambre des représentants, de manière bilatérale, finalement, et bipartisane, se sont déclarés contre cette option. C'est-à-dire que le fait pour Trump de passer au-delà de deux chambres qui, en plus, sur ce domaine-là, seraient plutôt hostiles au départ des Américains de l'OTAN, ça lui serait, à mon avis, très compliqué. Donc, pour répondre de manière simple, possible, oui, probable, sans doute pas.
Jean-Pierre Molnier, vous partagez, après ça, ce serait intéressant qu'on aborde la question des 2% des budgets européens et de voir un petit peu comment les uns et les autres interagissent par rapport à ces exigences américaines. Jean-Pierre Molnier, sur la place des États-Unis et la façon dont les États-Unis voient aujourd'hui l'OTAN.
Après, c'est la question de la gouvernance des États-Unis aujourd'hui, qui est quand même un grand point d'interrogation. Parce qu'on a Donald Trump d'un côté, on a des administrations de l'autre, Pentagone. On a beaucoup de mal quand même à voir comment s'équilibrent les deux, comment se prennent les décisions, etc., etc. Ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'effectivement, il y a les propos de Trump et puis la réalité. Et la réalité, c'est qu'effectivement, que les Américains sont toujours impliqués dans l'OTAN. Après, il faut avoir peut-être un petit peu plus de granularité pour voir comment ça se passe exactement à Bruxelles et notamment les initiatives américaines au sein de l'OTAN. Fondamentalement et politiquement, je vois pas les États-Unis se retirer de l'OTAN. en premier lieu parce que c'est leur intérêt. C'est quand même un moyen d'avoir des relations avec les pays de l'Union européenne. Et puis, d'une certaine manière, comme ils dépensent quand même 60% des dépenses militaires, bah c'est aussi un moyen de contrôle des États-Unis sur l'OTAN. Et je pense que James Mattis, notamment, qui était le dernier commandant allié à la transformation avant que les Français prennent ce poste, il le sait très bien, je pense. Et je pense que le Pentagone le sait très bien, donc je vois pas les États-Unis se retirer de l'OTAN.
Alors James Mattis, qui était le NATO friendly,
le premier secrétaire d'État à la défense
à la Maison Blanche et sous
Trump,
et qui a démissionné en décembre dernier, ouais. Et dans sa lettre de démission, il demandait que les alliés des États-Unis soient traités avec davantage de respect. Général Palomeros, la question des 2% exigés et demandés par Donald Trump à l'égard des pays européens, 2% du budget de chacun. On voit chez les Européens de gros différentiels avec les bons élèves. Je pense notamment à la Pologne et aux pays baltes qui sont les premiers, enfin en tout cas en première ligne face à la Russie. D'autres pays un peu plus qui traînent un peu davantage les pieds. Et parmi ceux-là, l'Allemagne. Il n'empêche que l'Allemagne, elle a aussi des excuses par rapport à cela. C'est-à-dire qu'elle joue tout de même en Europe, par rapport aux Américains, un rôle particulier. Elle y accueille des bases américaines, également, alors sur un autre registre, mais tout de même, les soldats américains blessés en Afghanistan et en Irak qui sont soignés en Allemagne. Donc, est-ce que cela lui donne à l'Allemagne un rôle un peu particulier?
Alors, c'est intéressant, cette question des 2%. Là, je dois avouer que j'en assume, dans mon ancien rôle de commandeur suprême pour la transformation, une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé à ce poste en 2012, et je n'ai pu faire que le constat, j'étais pas le seul, bien entendu, et en particulier en Europe, on était toujours dans la logique des dividendes de la paix. On n'avait pas bien compris que le monde était en train d'évoluer et que vis-à-vis de l'Alliance, et moi, c'est la mission qui m'était confiée d'assurer la transformation et la cohérence et la crédibilité militaire de l'Alliance, ça n'avait pas à faire le poids. Donc, je me suis exprimé en tant que commandeur vis-à-vis des responsables, des ministres et des chefs d'État. On a fait des propositions en disant « il faut stopper ». Et la manière politique de concrétiser ça, c'était pas de parler de déficit capacitaire ou autre, qui, certes, les politiques finissent par comprendre qu'il y a des trous dans la raquette, mais c'était de positionner le débat sur un plan qu'ils connaissent bien, le plan budgétaire, en disant, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Alliance, il va falloir qu'on fixe des normes, puisque l'Alliance est connue pour fixer des normes, et ben, commençons par fixer des normes de dépenses qui soient raisonnables. Mais si nous n'avions pas proposé, et je suis assez fier qu'on ait fait ça, ces 2% et il y a un codicille, c'est aussi 20% des budgets de la défense consacrés à l'investissement. Ça, c'est extrêmement important. C'est peut-être même plus important encore que les 2% sur certains aspects. Si on n'avait pas proposé ça, aujourd'hui, où en serait-on? Et c'est pas les Américains, finalement, qui ont mis ça sur la table, strictement. C'est nous. C'est parce que c'était salutaire. C'est parce qu'il fallait le faire. Il fallait qu'on reprenne la marche en avant. Alors, évidemment, les Allemands étaient pas pour. Passer à 2%, c'était très bien. C'était impensable. Mais c'était relancer la machine, en quelque sorte, sur 10 ans, sur 15 ans. Peu importe. C'est redonner de l'espoir, redonner de l'élan. Et redonner aussi confiance aux Américains en disant, vous voyez, on a fait quelque chose. Et aujourd'hui, ça permet quand même au secrétaire général de l'OTAN, là, à l'occasion des 70 ans de l'OTAN à Washington, d'afficher des chiffres qui sont en croissance. Alors, c'est sans doute pas assez, on peut discuter très longuement sur le sujet, mais c'est une reprise quand même des investissements de défense qui a permis au moins de stopper, non pas la décadence, mais enfin l'obsolescence d'un certain nombre de capacités. Et Dieu sait si on a à faire face à différentes menaces et que ces 2% seront sans doute un minimum.
Guillaume Lescondjaria, c'est un commentaire très rapide.
En disant que la manière dont on voit aussi ces 2% importe. Les Allemands, en fait, eux considèrent que les investissements qu'ils font, leur rôle, finalement, leur permet d'être en dessous de ces 2%. 2%, finalement, c'est une sorte de ligne rouge et c'est quelque chose qui est un peu catchy, qui attire l'œil. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut juger l'investissement d'un pays et son rôle dans l'Alliance? Pas sûr qu'il le faille, mais effectivement, c'est quelque chose que les Américains comprennent, même si eux, maintenant, disent il faudrait 4%.
Alors, on poursuivra sur cette question dans la deuxième partie de l'émission et notamment les conséquences du Brexit possible, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Place au foot pour nos auditeurs en Afrique et à Paris. Pour les autres, on se retrouve après le journal pour la suite de Géopolitique. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'OTAN à l'occasion des 70 ans de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous retrouvons nos invités, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié transformation au sein de l'OTAN. Guillaume Lascandjarias, historien militaire affilié à l'Institut de recherche sur les environnements complexes et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN. Et Jean-Pierre Moulny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission et posé la question de savoir si l'OTAN s'était fragilisée au fil du temps, si elle était aujourd'hui obsolète. Les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes, est-ce qu'elles ont un impact sur la façon dont les Américains voient l'OTAN ? Jean-Pierre Moulny, quelle question se pose aujourd'hui à l'OTAN ?
Oh ben, il y en a de multiples, donc je vais pas toutes les énumérer.
Les principales.
Voilà. Dans les principales, il y a quand même la question de la réalité de la garantie de sécurité des États-Unis. Et ça, en fait, s'il y a que des scénarios qui pourraient nous permettre de dire est-ce que véritablement les Américains sont là et ne sont pas là. Ce qui veut dire d'ailleurs que les Européens, ils doivent faire plus dans le cadre de l'OTAN, mais il faut qu'ils fassent plus également pour eux-mêmes. Et je pense que ça commence à être compris, en tout cas c'est parfaitement compris en France.
Juste une précision, Jean-Pierre Moulny, pardon, je vous interromps, garantie de sécurité des États-Unis, la question qui se pose c'est est-ce que si un pays européen est attaqué, les États-Unis viendront défendre ?
Effectivement, alors sachant qu'aujourd'hui une attaque ça prendra pas la forme d'une attaque militaire très forte, il y aura des éléments de guerre hybride, il y aura du cyber, et on se posera la question de savoir on fait pas. Maintenant, en cas de conflit dur, est-ce que les Américains sont prêts à perdre des pilotes face à des défenses aériennes renforcées ? Ça aussi, ça peut être une vraie question. Donc, il y a quand même une question qui se pose à ce niveau-là. Il y a la question des élargissements successifs. Mmh. Parce que l'élargissement, encore une fois, ça renforce l'OTAN, mais comment est-ce que c'est perçu de l'étranger ? Moi, il y a une chose qui m'a frappé. À partir de 2008, on a dit l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'OTAN. Bizarrement, à partir de 2014, on a supprimé le mot Ukraine, parce qu'il y avait eu les événements du début d'année et qu'on s'est dit, oula, on peut pas écrire ça parce que ça peut poser un grave problème vis-à-vis de la Russie. Donc cette question de l'élargissement de l'Alliance est en soi une vraie question qu'il faudrait se poser. Enfin, les Français et les Allemands ont d'ailleurs toujours été réservés sur les questions de l'élargissement de l'OTAN.
Quand on voit les problèmes de l'Union européenne, on peut imaginer que au sein de l'OTAN, ils ne sont pas si différents sur un autre registre. Mais voilà, un club qui cesse de s'agrandir.
Et c'est une alliance militaire. Donc l'alliance militaire, ça peut être perçu quand même comme une menace par l'extérieur. C'est une question en fait de discours de l'OTAN. Il faut que l'OTAN fasse très attention à ce niveau-là, à ne pas être perçu comme une menace potentielle. Et je ne suis pas certain que dans le discours qui a tendance à être, on va dire, très fort, enfin, la première phrase du communiqué final de la dernière ministérielle de l'OTAN, c'est de dire que l'Alliance Atlantique est l'alliance militaire la plus puissante du monde. Alors, c'est vrai que ça rassure les membres de l'OTAN, mais comment est-ce que c'est perçu de l'extérieur ? Ça peut être perçu comme une menace. Donc il faut que l'OTAN fasse quand même très attention à ce niveau-là. Encore une fois, c'est vraiment la question de la réflexion politique sur le futur de l'OTAN. Parce qu'effectivement, en termes de réflexion sur tout ce qui est militaire, menace, etc., et là, effectivement, les généraux français, comme le général Paloméros, qui se sont succédés au commandement allié à la transformation, ont fait un boulot fantastique à ce niveau-là. Et là, pour le coup, il y a une influence française qui a été très forte et très positive.
Alors, Général Paloméros, sur ce qu'évoquait à l'instant Jean-Pierre Molny, la nécessité pour les Européens de savoir aussi se défendre. Alors, plusieurs choses. Est-ce que vous les voyez, les Européens, à même de se dire aujourd'hui, voilà, il faut qu'on se défende sans les États-Unis? Je veux dire, ça demande une certaine maturité. Est-ce qu'il y a unanimité par rapport à cela? On évoquait le cas de l'Allemagne, on évoquait la Pologne, les Pays-Baltes. Et autre chose par rapport à l'Europe à proprement parler, le 1er février dernier, les États-Unis se sont retirés du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire en raison, selon Washington, de la violation de ce même traité par la Russie. Quelles conséquences pour l'Europe, Général Paloméros?
Et alors là, c'est la question, c'est vraiment, on est au cœur du sujet, si vous me permettez. Que se passe-t-il? Moi, si vous voulez, dans mon poste de commandeur à transformation, j'ai évidemment été en contact avec tous les pays de l'OTAN et en particulier les pays européens, parce que je m'étais fixé un objectif, c'était de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour que l'OTAN et l'Union européenne coopèrent de mieux en mieux sur la sécurité et la défense collective. Parce que de quoi parle-t-on? De la sécurité et de la défense essentiellement de l'Europe, pas uniquement de l'Europe, de l'ensemble des pays de l'OTAN, mais quand même avant tout de l'Europe. Donc la défense de l'Europe, après, qui l'assure et dans quelles conditions, c'est ça la vraie question. Et face à quelles menaces? Parce que se défendre par rapport à des menaces passées, même si elles ressurgissent. Donc tout ça est assez complexe. Alors, en deux mots, que me disaient mes interlocuteurs, ministres, voire chefs d'État par moment? Faites en sorte que cette transformation que vous êtes en train de penser, elle soit bénéfique pour, évidemment, l'Alliance, mais aussi pour l'Union européenne. Et ne dissociez pas les deux. Et je peux vous dire que je n'ai pas trouvé un seul de mes interlocuteurs, quelle que soit la capitale européenne, qui me dise non, il faut dissocier les deux. Au contraire, c'était trouver les axes de synergie. Primo, on n'a pas les moyens de dissocier nos forces, on n'a qu'une force armée. Secondo, notre sécurité, elle est indivisible, que ça soit vu sous l'angle de l'Europe ou de l'OTAN. Et tertio, on sent bien qu'on a, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, on a à faire face à de nouvelles menaces où on sent bien qu'une seule alliance, qu'un seul acteur ne pourra pas répondre. Et là, vous remettez en quelque sorte sur le devant de la scène cette question du nucléaire qui avait un petit peu disparu des écrans. Et évidemment, on sentait que ça montait, le positionnement des Russes à Kaliningrad, maintenant en Crimée, en Syrie, et on verra par la suite, fait peser, c'est vrai, une sorte de menace, en tout cas un poids, une sorte de chape de plomb là qui interpellait les alliés hein, bien avant que le président Trump dénonce le traité INF. C'est en 2014 déjà la question était sur la table et les alliés ont d'ailleurs soutenu les Américains hein, dans cette dénonciation du traité. C'est important ça, c'est pas unilatéral. Parce qu'on arrive à un moment où on est dans l'incohérence. Donc le nucléaire revient sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, l'OTAN a une composante de dissuasion nucléaire. Il faut rappeler que ce sont les Américains qui fournissent les bombes et les alliés qui, en quelque sorte, ont des vecteurs, des chasseurs pour transporter ces bombes. C'est une vraie question en soi. Mais le veto américain, c'est que c'est le président, évidemment, américain qui décide si oui ou non ces bombes peuvent être utilisées in fine. Donc ça, c'est un engagement stratégique des États-Unis dans l'OTAN qui est important. Et par ailleurs, on a évidemment la puissance nucléaire à la fois des Américains, des Britanniques et la puissance souveraine française qui intervient dans l'équation de sécurité. Et en même temps, on a des menaces tout à fait différentes, la cybersécurité, des menaces hybrides. Et donc, tout ça ne peut pas être géré par un seul bloc. Et c'est ça le vrai message. Il faut que les États fassent leur métier, c'est-à-dire se protègent au mieux par rapport à l'ensemble des menaces, y compris dans la guerre d'influence, dans la guerre hybride. Il faut que l'Union européenne, qui a des tas d'outils pour répondre à ces menaces, interviennent. Aujourd'hui, on n'entend pas l'Europe sur le nucléaire, et c'est sans doute dommage. Et la France a une responsabilité. Dernière puissance nucléaire en Europe, il va bien falloir qu'à un moment donné, elle sorte du bois, comme on dit. Et puis derrière ça, y a l'OTAN, effectivement, la défense collective. Et si on organise ça, on améliorera la résilience collective. Si on l'organise pas, on va créer des failles, et progressivement, l'Alliance va sans doute se déliter un peu, mais l'Union européenne n'en bénéficiera pas pour autant. La faiblesse de l'un entraînera la faiblesse de l'autre.
Alors, rapidement, puisque vous l'évoquiez, Général Paloméros, la question du nucléaire, la France seule puissance nucléaire au sein de l'Union européenne, ça c'est après le départ de la Grande-Bretagne. Le Brexit, voilà, comment est-ce que la Grande-Bretagne restera finalement dans la défense européenne après Guillaume Lascandrias?
Finalement, la Grande-Bretagne réinvestit l'OTAN. C'est-à-dire que, justement, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. Le fait que la Grande-Bretagne, qui a été finalement, on va pas se cacher derrière son petit doigt, a été finalement un acteur qui a plutôt ralenti qu'accéléré la défense européenne, le fait qu'il sorte, on sait pas quand, mais sorte de l'Union européenne, favorise finalement d'un côté l'émergence ou du moins l'accélération du côté de l'Union européenne et finalement renforce l'OTAN puisque les officiers, les Britanniques qui travaillaient ou pas d'ailleurs dans l'Union européenne finalement vont finalement faire bénéficier leur expérience au sein de l'OTAN et donc finalement ça va renforcer finalement l'OTAN. Ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement que les partenariats en revanche entre l'Union européenne et l'OTAN sur des questions de sécurité, c'est la question du partage non pas du fardeau mais la question du partage du labeur. Quelle mission pour qui? Mais là encore, on revient à des vieux débats. C'est-à-dire, on revient aux missions de Petersberg, on revient à tout ce qui a été fait dans les années 1990, qui était déjà finalement au centre de qui fait quoi? Est-ce que l'Union européenne va plutôt faire de la gestion de crise pendant que l'OTAN fera plutôt des missions fortes et dures? Mais finalement, il y a plus un travail commun. Et d'ailleurs, ça a été plusieurs fois remis sur le tapis puisque on est quand même à la deuxième déclaration commune entre Union européenne et OTAN et que sur une trentaine de projets, on travaille bien ensemble. Donc l'opposition finalement entre OTAN et Union européenne, elle est artificielle. C'est plutôt une prise de conscience que on a, le rappeler, un one set of force, c'est-à-dire que c'est le même soldat qui, selon la mission, va sur son patch d'épaule mettre son drapeau national, il le garde toujours, hein, le patch de la mission européenne ou le patch de la mission OTAN, mais ce sera le même soldat.
Alors, l'OTAN a toujours été très focalisée sur la Russie, on en a dit quelques mots, mais comme il nous reste 10 minutes pour terminer cette émission sur l'OTAN, et je pense qu'on aurait pu prévoir parfaitement deux éditions de géopolitique, une prochaine fois sans doute, j'aimerais qu'on parle de la Chine. Elle a, la Chine, l'ambition d'être leader en intelligence artificielle, big data, informatique, autant de domaines qui ont un impact sur le secteur militaire. Ces technologies sont à même de réduire considérablement le temps nécessaire pour gérer une crise, ce qui peut fortement désavantager une alliance comme l'OTAN aujourd'hui à 29, à l'automne prochain à 30, voire davantage. Bref, est-ce que l'OTAN, cette alliance transatlantique, ou cette alliance peut rester transatlantique aujourd'hui alors que les défis en Asie sont absolument considérables? Qui souhaite répondre? Jean-Pierre Monnier.
La question chinoise, c'est d'abord tout une question commerciale, avant d'être une question militaire. Alors après, c'est vrai que La croissance économique de la Chine fait que, naturellement, son budget de défense augmente beaucoup plus rapidement que le budget de défense des pays membres de l'Union européenne. Mais je pense que la véritable question, elle est là. Pour le coup, elle est peut-être plutôt mieux prise en compte par les États-Unis et par Donald Trump que par les Européens. Les Européens sont en train de prendre conscience du problème chinois. Mais je pense que ce serait, en tout cas aujourd'hui, une erreur de traiter la question de la Chine comme une question en termes de menace militaire proprement dit. Alors maintenant, c'est vrai que ça correspond quand même à un intérêt de sécurité des Américains et ce qu'on a appelé la politique du pivot sous Barack Obama. J'ai envie de dire que ce pivot, il continue aujourd'hui avec Donald Trump, mais peut-être plus sous l'angle commercial que sous l'angle militaire. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique vis-à-vis de la Chine. Et je pense encore une fois que c'est pas tellement à l'OTAN de prendre en compte cette question, mais il y a une problématique générale, effectivement, d'équilibre avec la Chine sur les questions commerciales. Et il faut effectivement créer à ce niveau-là un rapport de force avec les Chinois, ça c'est clair.
Général Palomeros.
Oui, alors c'est effectivement extrêmement important. Là, la question, c'est est-ce qu'on peut dissocier finalement les variables dans l'équilibre géostratégique? On revient à l'essence même du traité de l'Atlantique Nord, qui parlait de coopération, d'objectifs communs en termes de prospérité, en termes d'économie, éviter que les alliés s'affrontent. Donc là, les alliés font-ils, que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein de l'Alliance Atlantique, vont-ils faire bloc face à ce qu'on peut considérer comme une menace chinoise, mais au sens assez large, menace vis-à-vis des économies? On a un exemple très précis d'ailleurs. En ce moment, c'est les télécommunications de cinquième génération. Beaucoup de monde s'est exprimé, mais en particulier le chef d'état-major américain et le commandeur des opérations qu'on appelle SACUR en Europe, qui a dit « Attention, messieurs Européens, si vous vous équipez, on sait que Huawei est un géant en la matière, Si vous équipez vos réseaux de cinquième génération qui vont permettre des diffusions d'informations à des vitesses extraordinaires, on va tirer parti de la vitesse de la lumière, en quelque sorte, on va pouvoir... C'était vraiment une révolution, hein, cette cinquième génération. Vous allez créer un problème de dépendance vis-à-vis de la Chine. D'abord, les Chinois, on peut discuter au plan technique, mais c'est sans doute vrai, pourront effectivement récupérer des informations. Quelque part, il y aura des, ce qu'on appelle les backdoors, il y aura moyen effectivement, et ça sera évidemment assez grave pour la cohérence militaire de l'OTAN, et vous serez en situation de dépendance. Et ça, nous, Américains, on ne veut pas l'accepter. Et ils sont en train de se rendre compte d'ailleurs qu'eux-mêmes ont des difficultés parce qu'ils ont perdu des compétences. Donc là, on a une application très concrète, parce que si on n'arrive pas à régler des problèmes de cette nature qui vont conditionner les opérations du futur. Les opérations du futur, elles se feront en réseau et on aura besoin de ces systèmes de communication. Il faudra s'appuyer sur ces systèmes de communication. Tous les objets seront connectés au travers des systèmes de communication. C'est là que maintenant on se pose la vraie question. L'innovation, la technologie, la vision politique, la vision militaire. C'est ça qu'il faut réconcilier. L'Alliance est un bon cadre, mais l'Union européenne, sa vraie question, c'est quel degré d'autonomie veut-elle à terme avoir ? Quel degré d'autonomie stratégique ? Non pas forcément uniquement de sa défense. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire tout seul. C'est être de pouvoir prendre des décisions dans des débats géostratégiques en toute connaissance de cause. Et c'est l'âge de la maturité pour l'Union européenne. Soit elle le franchit, soit elle reste à l'adolescence et elle sera dépendante de ses grands frères ou de ses grands-parents. Et la Chine, forcément, en fera partie.
Alors, quel degré d'autonomie pour l'Europe ? Elle est, Guillaume Lascongérias, très divisée, l'Europe, sur ces questions. Ça permet peut-être d'aborder les questions, et il nous reste 2 minutes pour ça. Quid de l'avenir pour l'OTAN ? L'OTAN dans 30 ans, comment vous la voyez ?
Moi, j'aime pas, justement, jouer sur la notion de boule de cristal, parce que, comme dit l'expression, il y a une place en enfer pour quelqu'un qui s'amuse à prédire l'avenir. En revanche, ce que on peut imaginer, c'est que l'OTAN, à mon avis, restera. Elle restera parce que, finalement, ses faiblesses sont compensées par les atouts qu'elle apporte. Alors peut-être qu'elle sera au second plan, peut-être que l'Union européenne gagnera un peu en maturité et en force, mais je vois mal l'OTAN disparaître. Ce que je vois en revanche, c'est que on a des initiatives, et c'est peut-être intéressant de le préciser, des initiatives qui naissent, qui sont un petit peu entre l'Union européenne et l'OTAN. Macron, par exemple, le président Macron a lancé comme cette espèce d'initiative européenne d'intervention, qui est une sorte d'organisation internationale non identifié, qui se place à la fois en dehors mais sur l'Union européenne et qui accompagne en même temps l'OTAN. Donc là, c'est aussi peut-être qu'on va avoir quelque chose qui sera entre les deux. Alors peut-être qu'on aura une Union européenne sur des points de vue militaires et diplomatiques à 2 vitesses ou à 3 vitesses, et une OTAN qui, elle, cherchera à compenser l'absence de vision et d'ennemis bien identifiés entre des pays et des alliés qui regardent vers l'Est et d'autres qui regardent plutôt vers le Sud.
Alors, Jean-Pierre Molny, je rebondis très rapidement. L'OTAN doit-elle devenir globale, finalement, pour durer, subsister et persister ?
Votre question est intéressante parce que c'était des idées des débuts des années 2000 quand on n'était pas en crise, l'idée de Global NATO qui venait d'ailleurs des Américains. Si l'OTAN devenait globale, ça veut dire que l'OTAN se réinventerait totalement, pour mon avis. Et il faudrait à ce moment-là qu'elle cesse d'être une alliance militaire en tant que telle, mais plutôt une sorte de vaste agence mondiale en termes de défense et de sécurité. Je reviens sur la question des Chinois parce que je pense que c'est là que l'OTAN doit jouer un rôle. Elle doit dire aux États membres, attention, vous avez un risque. Mais après, la question doit être traitée en dehors de l'OTAN. Et là, effectivement, l'OTAN a un rôle très intéressant à jouer.
Général Paloméros, je suppose que vous adhérez à ce qui vient d'être dit très rapidement et en guise de conclusion.
Je crois que le monde se porte mieux avec une alliance qui a une vocation de protection, de prévention. Et je suis d'accord avec Jean-Pierre, il faut que l'alliance soit extrêmement vigilante dans son discours. Je me souviens, en 2014, il a fallu vraiment beaucoup de diplomatie pour prouver qu'on n'allait pas reconstruire une ligne Maginot à l'est de l'OTAN. Il faut surtout pas donner cette impression-là. Mais l'Alliance Atlantique, c'est pour le vivre de l'intérieur, c'est fabuleux de voir les politiques, les militaires travailler ensemble au quotidien pour trouver des solutions face aux sujets les plus complexes. C'est une force et je vous assure que rapprocher les hommes et les femmes de plus en plus, les faire travailler ensemble à partir d'une vision commune, ça c'est une force. Donc essayons de garder cette force, que les Européens prennent vraiment conscience que c'est leur avenir qui est en jeu et qu'ils doivent jouer au sein de cette alliance un maximum pour peser, parce que je crois qu'on est dans des rapports de force. Soit on a les deux titans qui s'affrontent et au milieu l'Europe est écrasée, c'est vraiment pas le but. Ou alors l'Europe émerge, fait valoir ses valeurs et peut les défendre dans tous les domaines, du numérique en passant par la vie privée de ses citoyens, etc., etc. Et là, on verra que l'Alliance Atlantique s'emportera beaucoup mieux.
Les deux titans étant les États-Unis et la Chine, nous l'avions bien compris. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié transformation au sein de l'OTAN. Guillaume Lasconjarias, historien militaire affilié à l'Institut de recherche sur les environnements complexes et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN. Et Jean-Pierre Mauny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Jérémy Besset. À demain.